nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée. Une présentation de Reine Fabienne d'Otigarène, bonjour.
Bonjour Nina Verdian Niabodé, bonjour à tous. Calme progressif dans le village Biadé à 20 km de Bombari dans la Waka, mais les habitants vivent toujours dans la peur. Ceci suite à l'attaque des éléments de l'UPC hier contre la position des forces armées centrafricaines. L'ONG Centrafrique d'abord, Centrafrique avant tout, s'engage à faciliter une entente entre agriculteurs et éleveurs dans la Mabamingi Bangoran. Elle a lancé hier un projet dans ce sens en Délé. Médecins sans frontières a célébré hier ses 50 ans d'action humanitaire dans le monde. L'ONG tire un bilan positif malgré un contexte sécuritaire difficile. Encore une heure, les finales de mini handball des jeunes vont démarrer sur le terrain de l'INGS à Bangui.
Le calme est revenu dans le village Biadé, dans la Waka, après l'attaque d'hier des éléments de l'UPC.
Oui, Verdiane, l'attaque a été menée à tôt hier matin contre la position des forces armées centrafricaines au village Biadé à 20 km de Bombari sur l'axe Ipi. Une attaque repoussée grâce à un renfort parti de Bombari. Aucun mort ni blessé selon des sources locales. Cependant, les activités sont paralysées et les habitants craignent encore une probable attaque des groupes armés. Les forces armées centrafricaines continuent de patrouiller dans la périphérie de Bombari pour sécuriser les populations civiles.
Toujours dans la Wakaren, la MINUSCA entend ramener la paix au village Boyo.
La mission met en avant le dialogue, mais tout en renforçant sa position dans la zone. La semaine dernière, des combats entre groupes rivaux ont fait au moins 12 morts parmi des civils. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, est interrogé par Chris Wajordan Badengbi.
Concernant Boyo, l'information que nous avions par rapport à cela, nous l'avons communiqué en début de semaine sur les auteurs déjà des éléments armés assimilés aux anti-Balaka. Il y a une volonté de cibler une communauté. Il y a eu une mission de la MINUSCA sur place pour rencontrer les autorités locales, pour rencontrer les deux communautés, afin que ce vivre ensemble, cette cohésion qui existait, ne soit pas remise en cause, mais surtout en termes sécuritaires, en renforçant sa position dans la zone pour protéger les populations.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekilo Karen, mettant le cap sur la vie d'Ndélé dans le Bamingi Bangoran. L'ONG Kakat, entendu Centrafrique d'abord, Centrafrique avant tout, s'engage à œuvrer pour la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs.
Oui, Verdiane, elle a lancé hier un projet de résolution des conflits entre ces deux acteurs du monde rural. Ce programme intervient dans un contexte où agriculteurs et éleveurs ne sont n'entendent pas à cause du non-respect des couloirs de transhumance clairement délimités. Suivant à cet effet Bernard Mupengia, chargé de programme à l'ONG Kakat, au micro de notre correspondant Raymond Commandé.
Les conflits aujourd'hui dans notre pays et plus précisément dans le Bamingi Bangoran tirent son origine par rapport à la transhumance. Donc il va falloir qu'aujourd'hui l'idéal de l'ONG Kakat, c'est de mettre en place un mécanisme qui pourrait sensibiliser à la fois les agriculteurs et les éleveurs afin de conscientiser chaque partie à respecter les parcelles qui lui sont dédiées. Parce qu'aujourd'hui, avec les multiples crises qui sont dans la région, les éleveurs ne respectent plus les passages qui sont réservés pour les bœufs et voilà du coup cela entraîne des tueries, des morts d'hommes, des incendies des biens de grande valeur. Donc il va falloir essayer de réglementer ces couloirs pour que les populations autochtones, principalement les agriculteurs, puissent bénéficier de leurs revenus économiques qui proviennent de l'agriculture.
C'était Bertrand Mupengia, chargé de programme de l'ONG Centrafrique d'abord, Centrafrique avant tout.
Dans la suite de l'actualité, parlons de culture. L'inscription de la rumba congolaise le 14 décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO fait réagir les pratiquants de ce genre musical ici à Bangui.
Ce style né en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville est exporté dans le monde entier et fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Certains artistes centrafricains ont salué cet exploit et comptent militer pour l'intégration des valeurs centrafricaines au patrimoine mondial. Rolf et Steve Domialeux a rencontré quelques-uns.
C'est une bonne nouvelle. Lorsque la musique est inscrite sur la liste du patrimoine mondial, c'est une bonne chose.
C'est la voix de Philippe Bokula, directeur général des arts et de la culture, qui parle de la rumba congolaise, un genre musical qui facilite la transmission des valeurs sociales et culturelles africaines à travers la musique jouée avec des instruments tradis modernes. Dans ce titre, Tambilama, le musicien Vano Starvan, chef d'orchestre de Sapeke Musica Boba, chante pour conscientiser son public. Aujourd'hui, il salue la consécration de la rumba.
Nous louons cette initiative. Aujourd'hui, la rumba est inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est pour nous une fierté car nous faisons aussi la rumba. Cette inscription me donne le courage de travailler davantage dans ce sens.
De temps en temps, Lossé Bangotiwa, une autre icône de la musique centrafricaine, fait de la rumba. Après une dizaine d'années de carrière, il se bat désormais pour hisser le Mantenguelin, un style de musique centrafricain au même rang que la rumba.
Mon plus grand souci, c'est de porter le Mantenguelin au même niveau que la rumba. On connaît déjà les Congolais avec leur style de musique. Nous, les Centrafricains, nous devons aussi valoriser notre identité musicale. On doit travailler dur pour que le Mantenguelin fasse partie de ce patrimoine.
Tout comme la musique, plusieurs biens immatériels de la République centrafricaine peuvent être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, selon Philippe Bokola.
Je peux citer entre autres les mégalithes de bois. Nous avons les huttes des pygmées. Nous avons les mets, l'art culinaire également. À savoir Popongo, que tout le monde connaît ici, le Yabanda également. C'est les moyens qui manquent, sinon on devait inscrire plusieurs biens déjà sur la liste du patrimoine mondial.
La Kumba, comme on l'appelait au début, a pris sa source en Afrique centrale chez les Bantous, précisément dans le royaume du Congo au XVIIe siècle. Ce style de musique sera appelé plus tard la Rumba au XXe siècle à Cuba. C'est une musique accompagnée de chants et de danses rythmées, jouée sur des instruments de percussion et des instruments à vent.
Reportage de Rolf Estève Domialé.
Agriculture, la destruction des plantations de manioc par des insectes ravageurs et des maladies interpellent le gouvernement centrafricain et la FAO.
Ils ont réuni des chercheurs et des cadres de l'Agence centrafricaine de développement agricole avant-hier et hier pour limiter les dégâts et il faut désormais des variétés de manioc saines et améliorées. C'est la principale recommandation des chercheurs et d'Alotine Diko.
Si les insectes s'attaquent aux feuilles et aux tiges, les maladies végétariennes telles que la struure brune et la mosaïque africaine font pourrir les tubercules de manioc dans le sol. Cette situation réduit la production et crée la flambée du prix de manioc sur les marchés. Des études ont alors recommandé l'introduction de boutures de manioc améliorées et résistantes à ces maladies. Sylvain Ndjongbanga, directeur régional de l'Agence centrafricaine du développement agricole à Pawa dans l'Impende.
Pour contourner à ces deux problèmes, de maladies et des ravageurs, il est question maintenant d'introduire des boutures saines à la disposition des producteurs afin d'augmenter la production de manioc. Au niveau de l'Agence centrafricaine de développement agricole, il y a un dispositif d'encadrement des suivis des producteurs qui est déjà mis en place. Alors le dispositif consiste à encadrer au niveau des groupements, au niveau des PP, sous la couverture des conseils techniques agricoles dans les communes et au niveau des secteurs, il y a les chefs des secteurs et au niveau de la région.
Plusieurs projets ont été mis en place dans le secteur agricole, mais les impacts n'ont pas permis de booster la production du manioc. Mathieu Crispin Zongo, directeur régional de l'Agence centrafricaine de développement agricole à Bombari, dans la Waka.
Quand on va rentrer dans la mise en œuvre, on aimerait qu'à la fin, l'effet même de ce projet soit évalué. Parce que le plus souvent, quand les ONG et les autres partenaires mènent un projet, c'est seulement des indicateurs de premier niveau, des distributions, des nombres de gens qui ont eu les semences et tout. Mais là, on doit aller jusqu'à effet. Quel est l'effet de ce projet-là sur la production, sur nos bénéficiaires? On est en train de prévoir qu'à la fin du projet, peut-être qu'un bureau d'études indépendant vienne pour mesurer l'effet, pour nous dire est-ce que le projet-là a pu résoudre la problématique de pourriture des racines de manioc.
Le projet pilote d'introduction et de multiplication de boutures de manioc améliorées et résistantes intervient au moment où les producteurs enregistrent ces derniers jours un faible rendement suite à une perte énorme des tubercules détruits par les maladies.
Autre ferrain, Médecins sans frontières a fêté hier son cinquantenaire.
Oui, Verdian cinquantenaire pour son action humanitaire dans le monde, mais 25 ans pour ses activités en République centrafricaine. Un bilan positif malgré de nombreux défis selon les responsables de l'organisation, Emmanuel Samboli.
En 1971, après la guerre de Biafra au Nigeria, un groupe de médecins et hommes de médias crée l'organisation humanitaire médicale Médecins sans frontières. 25 ans plus tard, l'organisation s'installe en République centrafricaine en 1996 pendant que le pays traversait des mutineries. En 25 ans, MSF a pu élargir ses projets et diversifier son assistance. Pour Gwenola François, représentante pays de MSF, la mission est un succès malgré de multiples défis.
Il y a 13 projets qui existent dans beaucoup de différentes villes sur le territoire. À Bangui particulièrement, nous avons 4 projets dédiés aux victimes des violences sexuelles, aux patients souffrant du VIH et de la tuberculose. Nous avons aussi un projet sur la santé materno-infantile et également un hôpital d'urgence chirurgicale à Sika. Nous développons nos activités avec nos moyens propres en toute indépendance, neutralité et impartialité.
Malgré le contexte sécuritaire inquiétant, avec des attaques contre des humanitaires en 2020, MSF a effectué près de 800 000 consultations, traité plus de 500 000 personnes souffrant de paludisme et fait accoucher plus de 19 000 femmes. Jean-Baptiste Madundi est directeur général de la pharmacie au ministère de la Santé.
Les défis restent encore à relever. Le département de la Santé souhaite que MSF continue d'apporter des appuis multiformes au gouvernement central, dont l'amélioration du système de santé, afin que la population puisse bénéficier des soins et des services de santé de qualité. J'ai saisi cette occasion pour condamner avec la dernière rigueur tous les actes criminels commis sur le personnel de santé de MSF et ceux du ministère de la Santé lors des interventions humanitaires sur le terrain.
Selon la représentante pays, Médecins sans frontières va continuer à soutenir la population vulnérable en fournissant des soins tout en élargissant ses zones d'intervention.
Actualité africaine à Madagascar, c'est une journée de deuil national aujourd'hui après le naufrage meurtrier d'un bateau cargo.
Oui, le président malgache a décrété ce jour de deuil national avec drapeau en berne. Le bilan s'est alourdi dans le naufrage du bateau Francia le lundi. Les autorités dénombraient 64 morts sur les 138 passagers. Hier, 21 morts supplémentaires ont été repêchés au large de l'île Sainte-Marie, ce qui porte le nombre total de décès à 85. 50 voyageurs ont pu être sauvés.
La page sport de cette édition, la fédération va organiser aujourd'hui des finales de mini handball en faveur des jeunes pratiquants de cette discipline.
Les matchs sont prévus à partir de 14h sur le terrain de l'INGS à Bangui. En Benjamin Garçon Académie affrontera Olympique. En Minime Garçon Académie jouera contre AS Cobra. Et en catégorie cadette fille, Académie toujours sera face à Olympique.
Basketball poursuit aujourd'hui des activités de la Coupe de NGFG Académie en faveur des jeunes filles et garçons.
Plusieurs matchs sont prévus aujourd'hui sur le terrain de la maison des jeunes des Castors dans le 3e arrondissement de Bangui. Les rencontres démarrent à partir de 14h. Au total, 7 centres et académies sont engagés dans ce tournoi de Noël. Les finales sont prévues demain à la veille de la fête de Noël. Au micro de Bienvenue Bélo, Ludovic, Bienvenue Miambaye nous donne le déroulement de cette activité jusqu'à vendredi.
Le jeudi, les académiciens vont s'affronter aller-retour éliminatoire. Donc, chaque académie par catégorie auront à jouer 4 matchs dans une seule journée. Le vendredi, nous allons jouer uniquement la phase finale pour remettre les cadeaux aux lauréats. Donc, nous invitons tous les publics, amis et sportifs du sport roi qui est le basketball, de venir sur le terrain de la maison des jeunes des Castors pour vivre ce moment-là. Et aux parents d'accompagner leurs enfants, de venir voir aussi les spectacles que vont produire leurs enfants sur le terrain de basketball.
Et en football, Rennes, nous parlons des matchs en retard de la Ligue de Bangui.
Effectivement, Verdun, un seul match est prévu au stade Barthélémy Bouganda entre l'Université Football Club de Bangui, UFCB, et l'Est Tempête Mokaf à 15h. Hier, en deuxième division, Espérance Football Club du 5e arrondissement a largement battu le Sporting Club de Bangui, SCB, 6-0. Le duel d'hier en première division entre Assopété et les Anges de Fatima a tourné en faveur de Assopété 1-0. Et c'est la fin de ce journal sur les 100.9 FM Radio Ndekeluka. Merci de votre fidélité d'écoute. La version langue nationale, c'est tout de suite.